Radio Kapi.
À la une, le verdict dans le procès de meurtre de Rossi Mukendi, activiste de droits de l'homme, l'ex-commissaire Karine Lokeso et l'ex-brigadier Tokis Kumbo, condamnés à perpétuité et destitués de la police, jugement rendu hier par la cour militaire de Kinshasa Matete, c'est la fin d'une longue procédure judiciaire qui a duré 3 ans. Les cours ont repris hier dans les écoles de Mangina à Beni. Après plus d'un mois d'interruption en cause des attaques à répétition dans plusieurs villages de cette commune, l'autorité scolaire de Mangina appelle les parents à envoyer les enfants à l'école pour éviter plus de retard sur le calendrier scolaire. Et puis, Covid-19, insécurité dans l'est de la RDC, éruption volcanique, situation sociale difficile et autres faits vécus en 2021. Comment alors se porte la santé mentale des Congolais? Pour en parler, nous recevons le professeur Ali Njukendi. Il est neuropsychiatre. Madame, Messieurs, bonjour. Justice pour commencer. Le verdict est tombé dans le procès du meurtre de Rossi Mukendi hier lundi devant la cour militaire de Kinshasa Matete en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo, prison à perpétuité et destitution au sein de la police. C'est la plus forte sanction pénale infligée par la cour à l'encontre des policiers Karine Lokeso, ex-commissaire supérieur, ex-brigadier Tokis Kumbo, Franco Bivouala également a été condamné par défaut. En matière civile, ils sont tous condamnés en solidarité avec la République à indemniser la famille biologique de Rossi Mukendi et le mouvement citoyen Debout Congo d'une somme de 105 000 dollars. Reportage Jeff Ngoy Mulunda.
Karine Lokeso a été reconnue coupable de violation des consignes pour avoir détenu sur elle une arme avec munitions létales, alors que c'était interdit selon la cour. Pour cette infraction, elle écope de 10 ans de servitude pénale transformée en sûreté, selon le juge. Coupable aussi de meurtre pour avoir ordonné à tirer. Tokis Kumbo et Franco Bivouala ont été reconnus coupables de meurtre également, mais Tokis a été acquitté de l'infraction des violations des consignes, motif de soulagement pour la famille de Rossi, d'après son frère Arsène Chimanga, mais pas satisfait du taux de réparation.
Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être en joie parce que enfin, la famille, les Congolais ainsi que le monde entier peuvent maintenant faire le deuil parce que le meurtrier des Rossi sont connus.
Satisfait du taux d'indemnisation.
Nous ne pouvons pas être satisfaits. Le préjudice subi par la famille ne pouvait pas être quantifié.
Maître Claude Kanyekete, avocat des parties civiles, s'est dit satisfait.
Je suis totalement satisfait. Nous allons veiller sur ça parce que lorsque les prévenus sont condamnés à perpétuité, avec 10 ans de sûreté, c'est-à-dire pendant ce temps-là, ils ne peuvent plus bénéficier des grâces ou des libérations conditionnelles.
En revanche, dans le camp des condamnés, on pleure avec promesse de faire appel d'après l'avocat de Karine.
Nous allons procéder aux voies de recours telles que la loi les prévoit en dehors de 5 jours.
C'est la fin d'une longue procédure judiciaire ayant duré 3 ans.
Entre-temps, au Nord Kivu, une importante quantité de gourdes et d'écharpes militaires a été interceptée par la douane dans une cargaison de marchandises importée la semaine dernière à Butembo. Il s'agit des gourdes d'eau militaire et des écharpes. Le capitaine Raoul Kimbamako, chef du parquet militaire détaché de Butembo, qui s'est saisi du dossier, dit l'avoir transféré au parquet militaire garnison de Beni, suivait les explications de Florida Kahambu.
Il s'agit de 100 pièces de gourdes et de 100 autres pièces d'écharpes militaires. Le capitaine Raoul Kimbamako, chef du parquet militaire détaché de Butembo, a demandé le 6 janvier au responsable local de la DGDA de saisir ses effets militaires pour des réseaux d'enquête. Sans donner plus de détails, l'auditeur militaire affirme que le dossier est transféré au niveau du parquet militaire garnison de Beni pour la suite de l'instruction. Des sources proches du dossier rapportent que ces effets militaires ont été interceptés par la brigade de lutte contre la fraude lors du déchargement à Butembo des conteneurs de marchandises en provenance de la Chine. Contacté, l'inspecteur Kibondo Tumba, responsable local intérimaire de la DGDA Beni, indique que le conteneur dont il est question a été déclaré à Kasindi en étant scellé avec l'identité d'un opérateur économique de Butembo. D'après lui, les conteneurs déclarés en étant scellés sont contrôlés d'une manière générale à Kasindi avant d'être soumis à un contrôle détaillé par la brigade de lutte contre la fraude dans leur lieu de destination. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Rendons-nous au Sud Kivu. Contrairement à ce qui a été diffusé sur Radio Kapibukavu hier lundi soir, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, n'a pas démissionné de son poste. Précision apportée à Radio Kapi par Désiré Kiakouima, son chargé de communication. Cette information fait suite à un faux document qui circule sur les réseaux sociaux. Le gouverneur du Sud Kivu dit s'est trouvé présentement à Kinshasa pour consultation au ministère de l'Intérieur et décentralisation. Cependant, il est vrai que Théo Ngwabidje, avec tout son gouvernement, avait été déchu par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu le 2 décembre 2021. Jusque-là, il conteste et rejette la procédure de l'Assemblée provinciale dans cette démarche. Dans l'entretemps, l'intérim de la province est assuré par le ministre provincial de l'Intérieur, Théophile Kilou-Emigo. Je vous propose d'écouter Désiré Kiakouima, chargé de communication du gouverneur du Sud Kivu, dans ses propos recueillis par Radio Kapi.
En effet, il s'agit d'une fausse information que le gouvernorat de la province du Sud Kivu voudrait démentir, dans le sens où le gouverneur Théo Ngwabidje Kasi poursuit son séjour dans la capitale, où, faut-il le rappeler, était appelé pour consultation par le vice-premier ministre. Et puis, il y séjourne après la décision prise par la cour d'appel du Sud Kivu, qui a pris la décision de suspendre les effets de la fameuse motion de censure prise par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Le gouvernorat du Sud Kivu tient donc à préciser que cette information a été rendue publique par les ennemis de la paix qui veulent toujours la déstabilisation des institutions de la province. Le gouvernorat de la province du Sud Kivu tient à préciser que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Théo Ngwabidje Kasi, poursuit donc son séjour à Kinshasa et que nous vous communiquerons le moment venu la date de son retour à Bukavu après qu'il aura terminé les consultations avec les autorités nationales.
Je vous le disais en titre, les cours ont repris hier dans les écoles de la commune rurale de Mangina à Beni. Nous sommes au Nord Kivu, selon Mouungi Amayala Amos, chef du centre scolaire de Mangina. Les activités scolaires étaient interrompues dans ce secteur depuis le 3 décembre dernier à cause des attaques armées meurtrières enregistrées régulièrement dans plusieurs villages de cette commune. Les attaques qui avaient contraint de nombreux ménages à s'enfuir. Mouungi Amayala Amos appelle les parents à envoyer les enfants à l'école pour éviter d'accumuler plus de retard sur le calendrier scolaire. Le chef du centre scolaire de Mangina, joint par Guylaine Kassassia.
En général, dans toutes les écoles, il y a eu présence des élèves et des enseignants, même si le nombre total n'a pas été atteint. Même s'il y a eu présence des élèves et des enseignants dans certaines écoles, surtout au centre de la commune et dans les quartiers Massimbembe où il y a eu massacre, les élèves se sont présentés à petit nombre. Et après, ils sont retournés à la maison. Sauf les finalistes, surtout des écoles secondaires qui sont restés dans les écoles pour suivre les cours. Si nous pensons que demain ou après-demain, les enfants vont venir à bon nombre. Nous avions arrêté les cours, c'était à cause de l'incursion des ADF qui étaient arrivés dans la commune et tuer quelques personnes, surtout dans les quartiers de Matimbembe. Tel que nous sommes réunis dans notre centre, nous avons pensé que nous allons prolonger les heures des cours. Si nous pensons que cela pourra nous aider de rattraper les retards que nous avons connus pendant tout ce temps où nous avons été à la maison sans étudier.
Par ailleurs, notez que l'impôt professionnel sur le revenu IPR a été supprimé pour tous les enseignants du sous-secteur de l'EPST, annonce faite hier par le ministre Tony Mwaba sur le compte Twitter de son ministère. En Ituri, il s'observe un retour progressif de la population dans plusieurs localités de la chefferie de Djoukot, dans le territoire de Mahagi. Ces personnes avaient fui les attaques des hommes armés dans cette région en décembre dernier. Certains ont trouvé refuge en Ouganda et d'autres dans les zones jugées plus sûres du territoire. La société civile de la chefferie de Djoukot demande à l'armée de renforcer ses effectifs pour sécuriser les populations qui commencent à regagner leurs localités respectives. Notre confrère Marc Marofimbo de la rédaction de Beni revient de la zone, voici son reportage.
Ce retour est consécutif aux offensives lancées par les forces armées de la République démocratique du Congo contre les groupes armés actifs dans la chefferie de Djikouot, où plusieurs localités dont les groupements d'armées étaient vidés de leurs habitants depuis le mois de décembre dernier. Parmi ces localités, on peut citer Lengue, Zamona, Wisso, Otmola, Adingi, Utagamba, qui ont été la cible des attaques des miliciers de la Codeco. Pour l'instant, certaines boutiques ont réouvert. Les habitants regagnent leurs maisons et vaquent déjà aux activités champêtres. Il faut signaler aussi que le trafic commercial entre ces localités, ainsi que les grands marchés d'Amé et celui de Nyoka, est redevenu normal. Mais la circulation des monnaies est lente, témoignent certains habitants de la région. Ici, les carottes, la pomme de terre, les haricots, ainsi que plusieurs autres produits champêtres sont prêts à l'évacuation pour la consommation, mais les acheteurs ne se bousculent pas car craignant pour leur sécurité. La société civile de la chefferie de Djikouot demande aux autorités militaires de renforcer l'effectif des militaires dans la région afin de sécuriser la population qui commence à regagner leurs localités respectives. Selon cette structure, les mouvements des hommes armés sont à visible vers la partie est de cette chefferie. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée. Bounia, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Du côté de Walikale, dans le nord Kivu, la situation est restée tendue jusqu'hier dans plusieurs villages du groupement Ikobo, c'est dans la partie nord-est du territoire. Cette zone est le théâtre des affrontements entre deux groupes armés locaux depuis plusieurs semaines déjà. Cette insécurité affecte maintenant la partie sud du territoire voisin de Lubero. Bernard Denyangi pour les détails.
Les deux groupes armés, Front des Patriotes pour la paix et FPP de Kabidon, et Ndouma pour la défense du Congo, un de ses rénovés de Guidon Mouissa, se seraient affrontés toute la nuit de dimanche à ce lundi dans le village de Kanoune, 6 km de Bouleous, chef-lieu du groupe Maïkobo, indique les habitants du milieu qui sont en ce moment déplacés en brousse. Ce lundi matin, les hommes de Guidon, qui seraient déjà entrés dans le village de Bouleoussa, auraient été contraints de repartir sur ordre de l'armée, précise un notable du milieu. Mais ce dernier déplore l'abandon depuis la semaine dernière par les FARDC de leur position du village Bukumbiroa, 12 km de Bouleoussa, Donatien Mongane.
Les FARDC ont quitté Bukumbiroa et Guidon a progressé. Malheureusement, à Bukumbiroa, il y avait 3 femmes qui étaient dans les salles de travail. Elles sont mortes toutes les 3. Maintenant, tout le territoire de Lubero commence à être menacé. Il n'y a plus d'études dans les Mirigi groupements Ital. Donc, nous demandons que l'armée rentre à défaut de ça. Nous allons nous prendre contre.
Rappelons que plus d'une dizaine de villages se seraient déjà vidés de leurs habitants depuis le début des combats entre les deux groupes armés dans la zone. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2, qui appelle la population de la zone au calme, indique que des dispositions utiles sont déjà prises pour neutraliser les deux groupes armés et rétablir la stabilité dans Ikobo. Goma, Bernard Dignangui, Radio Kapi.
Province du Maniema, plusieurs familles dans la commune rurale de Salamabila se retrouvent sans abri et ont perdu leurs biens suite à l'inondation causée par une forte pluie qui s'est abattue sur la cité l'après-midi de dimanche dernier. Après une ronde effectuée par l'équipe de la commune, le secteur bébé Salamabila, l'antenne des affaires sociales et actions humanitaires, ainsi que les organisations de la société civile, ont dénombre 323 ménages sinistrés exposés à toutes sortes d'intempéries. Le président de la société civile locale explique la situation au téléphone de Florence Kizalunga.
Une forte pluie s'est abattue à Salamabila, accompagnée d'un vent violent. Que cette pluie a causé beaucoup de dégâts matériels, mais nous signalons d'ailleurs qu'il n'y avait pas de dégâts humains. Parmi ces dégâts, les inondations à travers la commune, notamment dans les quartiers du marché, Pienge, Kindu, voire même les quartiers Maniema a été touché, les quartiers Namoya. Je peux dire que c'est déjà 323 ménages qui ont été touchés de ces inondations et vents violents. En dehors de ça, nous vous signalons par ailleurs que les victimes sont en train de passer nuit à la Belle Étoile, les autres dans des familles d'accueil, les autres dans des églises et dans des écoles. L'église Kadhafe, l'église 5e Serpa, l'église catholique et une mosquée ont accueilli les victimes de ces inondations. Depuis hier, il n'y a pas une assistance humanitaire. Alors, on est en train de lancer un message à toutes les autorités locales, provinciales, nationales et aussi aux partenaires de l'État congolais de pouvoir songer d'ores et déjà aux victimes de ces catastrophes naturelles qui se produisent à Salamabila.
Kasaï Central, cette bonne nouvelle pour les habitants de Kananga. La ville est desservie en courant électrique depuis le 30 décembre dernier. Cette énergie fournie par la Société Nationale d'Électricité SNEL est permanente. Pendant que la population lit cette situation au passage du chef de l'État dans la ville, la SNEL parle de 3 générateurs de 800 kVA acquis et mis en marche selon la planification pour donner du courant. François Kadima pour le reportage.
La ville de Kananga est alimentée par la SNEL à travers une centrale thermique qui nécessite du carburant. Cette situation fait que la société a toujours du mal à desservir la population 24 heures sur 24, soit par manque de carburant, soit quand le générateur connaît une panne. Mais depuis la fin d'année 2021, la SNEL dessert en permanence à la satisfaction de la population.
Nous avons vu quand même que la ville a changé parce que nous avons quand même du courant chaque jour ici.
D'autres parlent d'une aventure de la SNEL qui l'a fait parce que le chef de l'État était à Kananga et ne croit pas à une continuité du courant électrique sur la ville.
C'est justement parce que le chef de l'État vient qu'ils vont s'organiser pour disponibiliser l'électricité. Non, on n'a pas besoin de cette distraction-là.
Du côté de la SNEL, son directeur général parle de 3 nouveaux générateurs à qui le courant visible sur la ville provient de ces machines qui sont pendant une période d'essai des mois. Jean Bosco Kayombo.
Nous devons utiliser la centrale thermique. Après la période de rodage, nous devons ensemble voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour fonctionner normalement.
Pour continuer à avoir du carburant et donner du courant électrique, la SNEL envisage d'installer des compteurs qui permettront aux abonnés de payer la consommation. Elle voudrait également que ceux qui utilisent le courant électrique puissent payer les factures pour lui permettre d'alimenter les nouveaux générateurs. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité Afrique Monde.
Nouveaux épisodes de terreur dans le nord-ouest du Nigeria. Des groupes armés ont tué au moins 200 personnes lors de plusieurs raids qui ont déclenché des scènes de panique dans différents villages de l'état de Zamfara. Les éleveurs et les agriculteurs du pays le plus peuplé d'Afrique s'affrontent depuis des années pour l'accès aux terres dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. Mais certains groupes se sont transformés en bandits qui tuent, pillent et kidnappent. Ces derniers jours, des milliers d'habitants ont fui leurs habitations alors que les autorités locales étaient dans l'incapacité de les protéger.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le professeur Ali Njukendi, neuropsychiatre. Il dresse un diagnostic sur la santé mentale des Congolais par rapport à l'année 2021. Il fait aussi des propositions pour aider les Congolais à mieux vivre en 2022 sur le plan psychologique. Le professeur Ali Njukendi s'entretient avec Alain Rumushinj.
Bonjour professeur Ali Njukendi.
Bonjour.
Vous vous occupez de la santé mentale des patients. 2021 s'est terminé. Sur le plan psychologique, comment se porte le Congolais selon vous?
Vous savez, c'est vraiment très difficile de pouvoir évaluer l'état psychologique de tout le Congolais en général. Mais il suffit de voir comment s'est passée l'année, en commençant d'abord par la situation sécuritaire, parce qu'il y a un sérieux problème sur le plan sécuritaire, que ce soit sécurité nationale qu'individuelle. Le plan national, vous voyez l'état des sièges, ce que cela peut apporter. Les gens qui ont vécu ça, c'est plus à l'est. Ajouté à l'état des sièges, tout ce qu'il y a eu comme l'éruption volcanique, ce sont des éléments sociaux qui ont un impact sur le plan psychologique très capital au niveau national en général et particulièrement les gens qui ne peuvent que vivre un état de stress post-traumatique. Et cet état devient un état post-traumatique complexe, d'autant plus qu'il n'y a pas qu'un seul événement qui aurait poussé à cet état, mais plusieurs éléments. Au-delà de cet aspect sur le plan sécuritaire national, il y a aussi un aspect sur le plan sécuritaire individuel, puisque à Kinshasa, il y a ces derniers temps l'apparition des bureaux d'eux qui sont venus pour matraquer la population. Sur le plan politique, vous voyez tout le mouvement qui se passe, qui a aussi un impact sur la psychologie de tout un peuple. Ajoutez à cela la pandémie. La pandémie qui a fait qu'il y ait des répercussions sur tous les domaines de la vie.
Professeur, pour rebondir sur la pandémie de la COVID-19, il faut le dire qu'à tous les niveaux, les Congolais ont été d'une manière ou d'une autre touchés par la perte d'un être cher.
Ah oui, ça aussi, on a bientôt parlé d'un état de stress post-traumatique. Et vous savez, les circonstances de deuil avec la maladie qui a une contagiosité très élevée, lorsque vous perdez un membre de famille qui est mort de COVID, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et vous rappelez que cela a créé beaucoup de problèmes, d'abord par rapport à l'annonce du diagnostic. Quelqu'un est malade, les gens ne vont pas accepter qu'il soit mort de cette maladie.
L'année 2022 a commencé. Quels conseils pouvez-vous donner aux Congolais pour améliorer leur santé mentale?
Il faut d'abord pouvoir accepter la situation qui nous est arrivée et voir dans quelle mesure on peut réellement faire face à cela. Mais c'est une pandémie. La pandémie peut passer, mais la maladie va rester. Nous devons apprendre à vivre avec la maladie. Le premier instant, on entre en contact avec un prestataire, c'est au niveau du centre de santé. Cela revient à dire que le diagnostic de la COVID-19 devait être posé non seulement au niveau de la communauté, mais au niveau aussi du centre de santé. Dès que quelqu'un arrive et qu'il présente les symptômes, qu'on soit capable de poser le diagnostic et si possible de disponibiliser les différents sera testé, même dans des centres de santé, pas seulement dans des centres au niveau tertiaire, au niveau des cliniques universitaires, au niveau du CNPP, au niveau de Ngalima, non, même dans des centres de santé, on doit disponibiliser des tests. La telle enseigne que dès qu'un patient arrive et qu'on suspecte qu'il a un tableau similaire, on fait les tests si c'est positif et on le met sous traite.
Et au niveau de la population, il faut encourager encore et toujours le respect des gestes barrières.
Respect des gestes barrières. Vous savez, avec la grippe saisonnière qui est arrivée, vous savez qu'il y a des gens, même dans la communauté, moi je vois des gens parfois qui disent que non, on confond maintenant cette grippe aussi à la COVID. À telle enseigne que d'autres personnes allaient déjà à l'officine, ils peuvent prendre les médicaments, au lieu de prendre tel antibiotique, ils choisissent l'antibiotique qu'on prescrit chez les gens qui ont la COVID. Donc, il y a lieu d'organiser, bien sensibiliser la population.
Vous avez cité l'insécurité dans l'est de la RDC. Il y a une partie de la République touchée par l'insécurité alimentaire. Il y a des problèmes sociaux de tous les jours, l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité. Il y a beaucoup de mesures que le gouvernement est en train de prendre ou a déjà pris pour essayer tant soit peu de réduire ces difficultés. Pensez-vous que ça peut améliorer la santé mentale des Congolais?
La santé mentale, on tient compte des différents domaines de la vie dont vous venez de parler. Et il ne suffit pas à ce stade, quelqu'un qui est dans un état de détresse psychologique sévère, il ne suffit pas de lui apporter seulement des propositions, d'un espoir, tout ça. À chaque moment, il faut que la personne soit capable de vivre cela. Les gens ont vécu beaucoup de souffrances là à l'Est. Ils ont vécu beaucoup de problèmes. Et là, maintenant, c'est tout faire pour pouvoir concrétiser. Parce qu'on peut beau dire, amener les discours, oui, le discours, c'est bon, ça peut encore créer un certain espoir. Si nous vivons, c'est parce que nous avons encore de l'espoir. Mais ce qui reste maintenant, c'est la matérialisation et la concrétisation de tout ce qu'on peut promettre à une population pour son bien-être.
Professeur Ali Njoukendi, merci beaucoup.
Notre invité, le neuropsychiatre Ali Njoukendi, s'entretenait avec Alain Roumouchinj, qui a d'ailleurs supervisé ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.